Pour nous d'être ici encore, comme chaque fois qu'on vient, ça fait 3-4 fois, j'ai oublié. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rick Conrad. Ah ouais, elle fonctionne toujours. J'ai mes notes. Avec Chelsea et nos enfants, nous habitons à Aix-en-Provence. Où je suis en train d'implanter un ministère apologétique pour les étudiants de l'université. Donc apologétique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, comme Pierre nous a dit, de donner une raison pour l'espérance que nous avons. Et comme vous comprenez tous, c'est un défi particulier dans le contexte universitaire. Donc c'est pour ça que c'est un ministère important. À mon sens. Mais pour aujourd'hui, le texte que j'avais envie de prêcher, ça se trouve dans l'évangile de Marc, là, l'église libre à Aix-en-Provence. Quand je prêche à travers l'évangile de Marc. Je suis en train de faire ça. Ça va. Bon, si je prêche 6 fois par an, dans 30 ans, j'aurais dû finir. Donc, on est en Marc chapitre 2, les 12 premiers versets. Oui, il m'a fallu, je pense, 7 prédications pour finir le chapitre 1. Mais bon, c'est le premier chapitre, c'est important. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, dans ce premier chapitre, on a vu le titre de l'évangile, Évangile de Jésus-Christ. Christ, ça veut dire Messie, hein, le roi attendu par les Juifs, Fils de Dieu. Puis on avait Jean-Baptiste qui était dans le... désert et puis auprès du Jourdain, baptisant les gens qui se repentaient de leurs péchés et qui annonçaient que quelqu'un plus grand que lui venait. Et effectivement, Jésus arrive, il est baptisé par Jean, Dieu le Père lui parle, annonçant qu'il est le Fils de Dieu. Et puis Jésus, il commence à prêcher ce message, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile. Il s'est associé avec des disciples et puis il a commencé à démontrer sa puissance. Il a chassé un démon dans la synagogue de Capernaum et puis il a guéri presque tous les gens qui étaient malades dans la ville. Et puis on avait, oui en fait j'ai prêché ce texte la dernière fois, la guérison du lépreux. Je le veux, sois pur. Et donc, en chapitre 2, on se retrouve de nouveau à Capernaum, et je vais lire le texte à partir de verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme part-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire au... Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » prions. Merci Seigneur pour cette journée où nous sommes en vie, en ta création, rassemblés pour t'adorer et pour écouter ta parole. Parle-nous Seigneur, parle-nous à travers cette parole que tu nous as donnée. Donne-nous les oreilles pour t'entendre. Donne-nous la compréhension que ce pardon annoncé par Jésus est réel et effectif pour nous réconcilier à toi. Au nom de Jésus, amen. Une question, si vous avez une Bible devant vous, quel est le titre de ce passage, de ce texte dans votre Bible? Ou bien, qu'est-ce que vous mettriez comme titre? Il y a plusieurs titres que j'ai trouvés dans les Bibles que j'avais. Par exemple, j'ai devant moi Jésus guérit un paralytique. Ça semble logique, mais à mon sens, ce n'est pas un bon titre. Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas un bon titre si le but du titre, c'est d'annoncer l'enjeu central du texte à suivre. S'ils avaient l'idée de garder un peu de surprise, peut-être que ce n'est pas mal. Parce qu'il y a une surprise, hein? On a Jésus dans la maison, il est en train de prêcher, d'annoncer la parole, et puis il y a ces gens qui démontrent une certaine créativité, une certaine détermination pour arriver jusqu'à Jésus. Et donc il y a le paralysé qui est là devant le Seigneur, et Jésus ouvre la bouche pour parler et il dit, ben pas lève-toi et marche. Ce qu'on aurait attendu, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit ça à cet homme en particulier? Parce qu'il ne dit pas ça à tout le monde qui lui vient pour être guéri. Mais à cet homme, il dit, tes péchés sont pardonnés. On ne sait pas. Ou comme on l'a pris, le paralysé. Est-ce qu'il a été déçu? C'est pas pour ça que je suis venu. Ou par contre, est-ce qu'il était vraiment soulagé? Que c'était ce qu'il sentait au plus profond de lui et il n'osait même pas dire c'est ça qu'il voulait. On ne sait pas. Marc ne nous dit pas ça. Ce que nous savons, ce que Marc nous raconte, c'est que la réaction, c'est l'opposition. L'opposition des scribes et on s'y attendait. Même si on ne savait pas grand-chose sur un évangile, on savait que la vie de Jésus doit avoir une crucifixion à la fin. Donc, un certain niveau d'opposition de la part des autorités. Et là, ça commence. C'est la première fois dans l'évangile de Marc que nous rencontrons cette opposition, et c'est de la part des scribes. Bon, qu'est-ce qu'un scribe? Bon, en premier lieu, un scribe, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire. Et donc, dans cette société, à l'époque, c'est eux qui ont la responsabilité de recopier les Écritures. Bien sûr, pour créer de nouvelles copies, mais aussi pour préserver le texte, parce que les copies s'usent et il faut les remplacer continuellement. Et donc, c'est eux qui le font. Et à force de copier jour après jour les Écritures, c'est eux qui les connaissent. Ils ont la connaissance des Écritures, l'expertise de la Torah, donc c'est pour ça le second 21 mai, les spécialistes de la loi, et donc c'est eux qui enseignent la loi, c'est eux qui enseignent les Écritures aux gens ordinaires qui ne peuvent pas les lire pour eux-mêmes. On a vu ce mot dans le premier chapitre de Marc, parce que Jésus était en train d'enseigner, les gens remarquaient qu'il enseignait pas comme les scribes, mais comme ayant de l'autorité. Donc, il y avait opposition, mais un certain contraste entre Jésus et les scribes. Pourquoi ils sont là? Vraisemblablement, pour écouter Jésus. C'est un enseignant réputé. Et peut-être qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Ils vont apprendre quelque chose. Donc, peut-être pas forcément pour trouver un problème, mais quand il dit « tes péchés sont pardonnés », il y a effectivement un problème. C'est quoi le problème? Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils blasphèment. Jésus blasphème. Mais qu'est-ce que Jésus a dit qui est un blasphème? Bon, selon eux, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? C'est ça le blasphème. Jésus prétend pardonner les péchés, mais seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus fait quelque chose que seul Dieu peut faire. Donc, il s'approprie une autorité qui appartient à Dieu seul. Ou, dans le pire des cas, Jésus se prend lui-même pour Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi ça, c'est que Dieu qui peut pardonner les péchés? Est-ce qu'on enseigne à nos enfants de se pardonner mutuellement quand ils se font tort? N'est-ce pas? Ou bien, si je dis quelque chose maintenant qui est blessant, offensif, si je te blesse par ma parole, tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Une offense contre toi. Et c'est ainsi qu'on peut restaurer notre relation. Mais ce n'est pas ça le pardon le plus important dont j'ai besoin. Si j'ai péché contre toi, parce que ce n'est pas ta loi que j'ai violée. Ce n'est pas ta loi que j'ai transgressée, mais celle de Dieu. Donc toute faute, que ce soit contre une personne ou pas, c'est ultimement contre Dieu qu'on pêche. Et donc c'est devant Dieu que nous sommes des pécheurs coupables. Et quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », il ne parle pas des péchés qui auraient été commis contre lui en tant qu'homme. Vraisemblablement, ils ne sont jamais rencontrés avant ce jour. Donc quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », il dit « tes péchés qui te rendent coupable devant Dieu », ça c'est pardonné. Tu es maintenant innocent, justifié dans les yeux de Dieu. Et ça, effectivement, seul Dieu peut le faire. Et les scribes n'ont pas tort. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent qui vient de se passer? Ils pensent que c'est pas réel. Ce que Jésus vient de prononcer, il n'a pas l'autorité de dire ça, et donc, ça n'a aucune valeur. C'est que de mots. Il fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Et c'est ça la question cruciale posée par ce texte. Le pardon prononcé par Jésus, est-ce que ce n'est que de mots? Ou est-ce que c'est réel? Est-ce que ça change réellement notre statut devant Dieu? Et la réponse, le message central de Marc 2 ici, à cause de qui Jésus est et ce que Jésus fait, le pardon de Jésus est réel. Aussi réel que la guérison du paralytique. À cause de qui Jésus est, à cause de ce que Jésus fait, son pardon est réel, c'est aussi réel, objectif, tangible que cette guérison. Donc, à cause de qui Jésus est, qui est Jésus? Qui est Jésus dans ce texte? Et remarquez que le pardon que Jésus annonce, en fait, c'est une réponse à leur foi. Il nous a dit, voyons leur foi, Jésus dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que la foi? C'est la confiance. C'est la confiance qu'ils mettent en Jésus. Ce n'est pas aveugle, je dis en passant. Ce n'est pas comme ça, bon, je vais avoir confiance en quelqu'un. En fait, ils avaient entendu ce que Jésus était en train de faire en Galilée. Il avait guéri plein d'hommes là, dans leur ville, à Capernaum. Donc, ils avaient entendu ce qu'il peut faire et c'était raisonnable qu'il fait de même pour eux. C'est une foi dans sa puissance, ils savent ce qu'il peut faire, et aussi dans sa bonté, qu'il va vouloir faire ce qu'il lui demande. Et cette confiance, cette foi, ce n'est pas dans un système, ce n'est pas dans une méthode, c'est dans sa personne, c'est en cet homme. Il vient à Jésus parce que c'est Jésus. Alors, qui est Jésus? Pourquoi? C'est Jésus qui engendre ce confiance. Bon, Jésus utilise pour lui-même un titre particulier. Quand il dit « Oui, j'ai bien l'autorité de pardonner les péchés », il s'appelle quoi? Il s'appelle le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui a l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Et effectivement, c'est la première fois qu'on l'en rencontre ici, mais à travers les évangiles, on va trouver que c'est le titre préféré de Jésus pour lui-même. Il ne s'appelle pas tous les jours « Fils de Dieu » ou « Christ » ou « Messie » ou « Dieu le Fils ». il s'appelle le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il utilise ce titre? Et c'est un titre qui existe dans l'Ancien Testament. Quelquefois, en général, ça veut dire simplement un homme. Hein? Un fils d'homme, c'est quoi? C'est un homme. Par exemple, en Ézéchiel, Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme, constamment. Mais il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est le plus important pour comprendre pourquoi Jésus s'appelle le fils de l'homme. Et c'est en Daniel 7. Je vais lire Daniel 7 à partir de verset 9. 9 et 10, et puis 13 et 14. Donc Daniel, qui était un juif exilé à Babylone, il a interprété la vision que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar, puis il a ses propres visions. Donc là, il est en plein milieu des visions que Dieu lui envoie pour annoncer les choses qui vont se passer. Et il dit, Daniel 7, verset 9, « Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'est assis. » C'est Dieu. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. Et là, on a une scène de jugement, n'est-ce pas? Et en fait, si on avait lu les versets précédents, c'est une vision où il y a une série de bêtes féroces qui représentent les rois, les empires de la terre. Et ici, c'est le moment où ils se feront juger par l'Ancien des Jours. Et c'est ça qui se passe dans les versets 11 et 12. Et puis, verset 13. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à... un fils de l'homme, est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Et ce fils de l'homme, il a autorité, hein? Il a l'autorité sur tous les peuples et toutes les nations de la terre. Et du coup, c'est une scène de jugement. C'est le fils de l'homme qui va juger. C'est tous les gens qui vont rendre les comptes à lui. Et c'est ça que Jésus lui-même dit en Jean 5. Il dit « Le Père a donné au fils l'autorité de juger, parce qu'il est le fils de l'homme. » Et bien sûr, c'est lui qui a le droit de juger, c'est celui qui a le droit de pardonner. Mais enfin, qui est-il? Pourquoi c'est à ce fils de l'homme, à ce Jésus, que toute cette autorité lui est donnée? Et là, il y a deux indices. Le premier dans le texte de Daniel 7 et l'autre en Marc 2. En Daniel 7, bon, je vous donne un troisième bonus. Le fils de l'homme vient sur les nuées du ciel. Et si on cherche dans les Écritures qui vient sur les nuées du ciel, il n'y a qu'un. Mais je voulais remarquer qu'en Daniel 7, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Le mot servir ici, c'est particulier. En araméen, c'est palar. Et ce n'est pas servir n'importe comment. Ce n'est pas ce que fait l'esclave pour son maître ou la serveuse au resto cet après-midi. Palach, c'est le service qui est offert à Dieu dans le temple. C'est ce que font les prêtres. Ça, c'est Palach. Et dans le livre de Daniel, on a l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, ses amis de Daniel. Et quand le roi ordonne à tout le monde de servir Palach, sa statue, ces gens refusent. Ils disent, nous ne palach que Dieu. Et donc, ce palach qui est fait envers le Fils de l'homme, c'est l'adoration. Le Fils de l'homme est adoré par le monde entier. Et puis, dans le texte de Marc 2, j'ai dit qu'on retrouve ici la première opposition à Jésus. Opposition timide. Quand même, parce qu'ils n'ont rien dit. Vous avez remarqué, hein? Ils n'ont rien dit. Ils raisonnaient dans leur cœur. Ils pensaient. Et que fait Jésus? Il répond, comme s'ils avaient dit quelque chose. Il répond à leur pensée. Et nous savons tous, comme on dit en Proverbe 17:3, c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Ou comme Jérémie 17:10, c'est l'Éternel qui explore le cœur, qui examine les reins. C'est Dieu qui sait les pensées des gens. Et Jésus, il sait les pensées des gens. Alors les scribes disent, j'ai sauté quelque chose. Peux-tu imaginer, hein? Tu es là, en train d'écouter la prédication, tu es en train de réfléchir tranquillement dans ton propre esprit, et puis Jésus répond à tes pensées. Ce n'était pas toujours confortable d'être en présence de Jésus, j'imagine. Donc les scribes disent qu'ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et ils ont raison que seul Dieu peut pardonner les péchés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est Dieu. Le Fils de l'homme, c'est le Dieu incarné, le Fils de Dieu en chair humaine. Et ça amène à, j'ai dit, à cause de qui Jésus est et à cause de ce qu'il fait. Son pardon est réel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Et ce titre, Fils de l'homme, c'est un titre particulier pour Dieu le Fils. On a un Dieu trine. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnes qui ont ce même Dieu, qui partagent cette même nature divine. Mais ce n'est pas le Père ou l'Esprit qui sont Fils de Dieu. C'est que Dieu le Fils qui est Fils de Dieu. C'est que Dieu le Fils qui est devenu homme. Et bon, le Fils de l'homme, c'est un homme. Mais pourquoi Dieu le Fils s'est-il fait homme? Pourquoi est-il devenu le Fils de l'homme? On trouve une réponse de la part de Jésus plus tard dans l'évangile de Marc, où il dit en chapitre 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il est venu afin de mourir, de donner sa vie, lui innocent à la place des pécheurs coupables. Et c'est en vertu de ce sacrifice que le pardon des péchés est offert. Son pardon, ce n'est pas que de mots. C'est la réalité qu'il assume sur lui nos péchés et il meurt. Ce n'était pas que de mots, cette mort, ni sa résurrection. C'était des actions vivantes et efficaces. Et c'est ainsi que Jésus a porté la peine de mes péchés. Et si Jésus est mort pour tes péchés ne sont plus. Tu es libre. Tu n'as plus rien contre toi grâce au pardon de Jésus. Et donc le pardon de Jésus est réel. C'est aussi réel que cette guérison qui va opérer. Parce que les scribes doutent de l'autorité de Jésus de pardonner les péchés parce qu'ils ne peuvent pas voir le pardon. Ils ne peuvent pas voir que ça s'est vraiment passé. Alors Jésus, il est généreux, il leur donne une preuve. Il pose la question. Qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Lève-toi et marche. Quel est plus facile à dire? Effectivement, les deux sont miraculeux. De pardonner les péchés ou de guérir le paralytique. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Mais on peut dire en quelque sorte que c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés parce que les gens ne peuvent pas vérifier. N'importe qui peut dire ça, peut prononcer les mots. Mais par contre, si on dit « lève-toi et marche », on va voir tout de suite si ça marche ou pas. On va savoir si c'est réel. Alors Jésus est en train de dire la logique de sa question, c'est que le pardon que je viens d'accorder à cet homme, c'est aussi réel, objectif, tangible, aussi authentique que cette guérison que vous allez voir de vos propres yeux. Et il dit au paralytique, pardonné, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Sois désormais libre et de ton handicap et de tes péchés. Nous ne croyons pas à une théorie. Nous ne croyons pas à une idée. Ce n'est pas de la spéculation métaphysique ou des rêveries spirituelles cet évangile que nous prêchons. Notre foi est dans une personne qui a vécu sur cette terre dans notre réalité quotidienne, qui a eu la poussière de Galilée sur ses pieds. Les gens ont vu, ils l'ont touché, ils ont expérimenté tangiblement sa puissance et son autorité divine. Et le pardon offert en son nom n'est pas une théorie ou une spéculation. C'est le décret du Fils de Dieu entré dans sa création pour nous annoncer la liberté. Sa parole a autorité. Quand il te dit « sois guéri », tu es guéri. Quand il te dit « sois pardonné », tu es pardonné. Frères et sœurs, grâce à qui Jésus est, et grâce à ce qu'il a fait pour nous, si le Fils t'a libéré, tu es véritablement, réellement libre. Prions. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils dans le monde.